Anne de Tanguy, à la fois historienne et politiste, rattachée au Centre de recherche internationale de Sciences Po, le CERI. Le désir d'indépendance de l'Ukraine, de se tourner vers l'Europe, est très ancien parce qu'il apparaît très clairement dès 1991. C'est tout d'abord que l'Ukraine définit la place qu'elle souhaite avoir au sein de l'espace post-soviétique. L'Ukraine est un des trois pays fondateurs de la communauté des États indépendants en décembre 1991. Très vite, elle explique que la communauté des États indépendants, ça n'est qu'un instrument, je cite, de divorce civilisé, parce que son objectif premier, c'est de se tourner vers l'Europe. Et donc, la CEI sert à gérer le divorce, sert à gérer les problèmes divers et variés des nouveaux États indépendants, mais que elle veut se tourner vers l'Europe et intégrer les organisations européennes dès que cela sera possible. Cette vision des choses amène l'Ukraine à prendre ses distances avec la Russie et à ne pas souhaiter s'intégrer dans les institutions qui sont créées à l'initiative de la Russie. Par exemple, l'Ukraine n'a pas signé la charte de la communauté des États indépendants qui a été signée par les États membres en 1993. Elle n'a pas adhéré non plus au pacte de sécurité collective en 1992. Elle n'a pas adhéré à l'union douanière qui a été créée à partir de 1994. C'est dire que, en fait, cette position ukrainienne a grandement contribué au fait que la communauté des États indépendants est restée une coquille vide. Les positions ukrainiennes, dès le début des années 90, ont commencé à saper lentement mais sûrement les positions de la Russie dans l'espace post-soviétique. Et ça a continué par la suite. On s'en souvient, l'Ukraine a refusé d'adhérer à l'Union économique eurasienne qui avait le jour en janvier 2015. Et parallèlement, l'Ukraine s'est donc tournée vers l'Europe et vers les États-Unis. La relation avec les États-Unis a été nouée et elle s'est développée au début des années 90 dans le cadre de la dénucléarisation de l'Ukraine. Début des années 90, l'Union soviétique s'effondre. L'Union soviétique, nous le savons, avait un arsenal nucléaire très important et donc les pays occidentaux, en tête les États-Unis, ont été extrêmement inquiets d'une prolifération des armes nucléaires. Ils ont déployé des efforts absolument considérables pour empêcher la prolifération des armes nucléaires. Ils ont reconnu la seule Russie comme État nucléaire et ils ont demandé aux autres États issus de l'ex-URSS sur le territoire desquels il y avait des armes nucléaires, c'est-à-dire l'Ukraine, le Biélorussie et le Kazakhstan, de renoncer à ces armes nucléaires. Les négociations se sont passées entre l'Ukraine et les États-Unis. Elles ont été longues, elles ont été compliquées. Les Ukrainiens se sont montrés des négociateurs très très fermes. Elles ont débouché sur un accord en janvier 1994 et sur le fameux mémorandum de Budapest dont on a beaucoup parlé ces derniers temps sur les garanties données à l'Ukraine dans le domaine de la sécurité par les États-Unis et la Russie et aussi la Chine et la France. Le mémorandum de Budapest, il prévoyait que, en échange de l'engagement de l'Ukraine à transférer sur le sol de la Russie la totalité des armes nucléaires stationnées sur son sol, en échange de cela, les pays signataires garantissaient à l'Ukraine des garanties en matière de sécurité. Et l'Ukraine a respecté scrupuleusement les engagements qu'elle avait pris au titre de ce mémorandum de Budapest. Alors, sur le moment, tout est apparu satisfaisant, sauf que en 2014, lorsque la Russie a annexé l'Ukraine et lorsqu'elle est intervenue militairement dans le Donbass, eh bien, à ce moment-là, tout le monde avait oublié le mémorandum de Budapest. Ces garanties avaient en fait une valeur très limitée dans la mesure où les engagements n'étaient pas contraignants. C'est très important de comprendre que finalement, ce tournant vers l'Ouest, il a eu lieu immédiatement après l'effondrement de l'Union soviétique. Ce tournant vers l'Europe, vers l'Occident, il est passé aussi très vite par l'intermédiaire de l'OTAN. L'Alliance Atlantique, dès décembre 91, s'ouvre aux pays de l'Est. L'Ukraine commence à penser qu'elle pourrait, elle aussi, s'intégrer dans l'OTAN. Et dès 2002, sous la présidence de Léonid Kouchma, l'intégration à l'OTAN devient un objectif de la politique étrangère ukrainienne. Et quelques 15 ans plus tard, en juin 2017, le Parlement ukrainien a voté une loi faisant de l'adhésion à l'OTAN un objectif stratégique. Dans les années qui ont suivi l'effondrement de l'Union soviétique, l'Ukraine a adopté une politique multivectorielle dont l'objectif était de se tourner vers l'Europe, mais en même temps de garder de bonnes relations avec la Russie. Les Ukrainiens, rappelons-le, avaient avec leurs grands voisins du Nord de multiples liens personnels et autres auxquels ils étaient très, très attachés. C'est dire que dans un premier temps, leur volonté de s'affirmer face à la Russie ne signifiait pas qu'ils souhaitaient une rupture avec celle-ci. C'est la politique russe qui a conduit les Ukrainiens, en particulier à partir de 2014, à percevoir la Russie comme une menace et même maintenant comme une ennemie. L'Ukraine s'est engagée dès le début des années 90 sur la voie de la démocratisation. Ça n'a pas été un long fleuve tranquille. Et depuis les années 90, l'Ukraine est une démocratie électorale. Contrairement à la Russie, l'alternance politique a eu lieu en Ukraine à plusieurs reprises. Et puis d'autre part, eh bien, l'Ukraine a connu deux révolutions, les révolutions orange en 2004 et celle de Maïdan, qu'elle appelle la révolution de la dignité en 2013-2014. Et ces deux révolutions sont révélatrices du fossé qui existe entre la Russie et l'Ukraine. Elles sont révélatrices de la volonté d'une large partie du peuple ukrainien de faire de leur pays un état de droit, un pays européen, révélatrices aussi du poids du peuple ukrainien qui se manifeste également par l'émergence d'une société civile très dynamique depuis 2014. Et là, il y a un point qui est extrêmement important parce que manifestement, Vladimir Poutine a toujours été incapable d'imaginer que ces révolutions pouvaient être autre chose que le fruit de manipulations occidentales. Et donc là, on voit un fossé entre le régime autoritaire qui a été mis en place en Russie et le régime en Ukraine, et ça débouche sur le fait que finalement, si l'Ukraine parvient à mener à son terme les différentes réformes qu'elle avait menées avant la guerre, eh bien, elle deviendra dans tout l'espace post-soviétique un pôle d'attraction radicalement différent de celui qu'est la Russie, et donc elle sera encore plus un concurrent de la Russie sur le plan politique, ce qui serait absolument inacceptable pour Moscou.